France Culture.
Bonjour Lionel Trouillot.
Bonjour.
Je suis ravie de vous retrouver pour le quatrième épisode de cette série d'À voix nue, épisode que j'ai intitulé « Un auteur à personnage ». Hier, en effet, nous avons parlé des thématiques récurrentes et des lieux qui apparaissent dans vos romans. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des personnages. Comme on le disait hier, vous mettez souvent en scène les conflits de classe à Haïti, mais vous le faites toujours depuis l'intime et vous parvenez à créer des personnages complexes et jamais caricaturaux. Ils viennent d'où, ces personnages ?
De la réalité. J'écris en observant beaucoup et en me faisant l'exigence de supposer à l'autre, même quand je ne l'aime pas, l'humanité que je me suppose. Nous sommes traversés par des contradictions, par une sorte de disponibilité à beaucoup de choses différentes à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est dans notre confrontation avec les différents aspects de la vie que nous nous construisons et nous déconstruisons. Et donc, quand je mets en vie ou en mouvement un personnage, il est important pour moi que ça ne soit jamais une caricature. Je n'aimerais pas être traité comme une caricature. Donc, pour moi, c'est le respect minimum qu'on doit au personnage, même quand ça peut être le pire des salauds, même quand ça peut être la plus abjecte des bourgeoises haïtienne, il faut lui, haïtienne ou française, on s'en, à la limite, peu importe, il faut quand même lui supposer la possibilité d'une humanité. Et ce que j'essaie de mettre en jeu quand je compose un personnage, c'est cette question de la détermination d'un côté et de la possibilité de faire autre chose de soi-même. Donc il y a ce que nos déterminations font de nous. Et il y a la possibilité de, peut-être, chez certains personnages, c'est une réussite, chez d'autres, c'est un échec. Il y a donc cette possibilité de nous construire autrement et de ne pas suivre le chemin de nos déterminations, pour ne pas dire de nos surdéterminations. Donc c'est toujours la confrontation de la possibilité de la liberté avec le réel.
Et vous vous mettez toujours dans leur tête, pratiquement tous vos textes, je crois, sont des textes à la première personne, où vous vous mettez dans la peau de différents personnages.
Pas tous mes textes, mais la plupart en effet. Et je pense que le respect, là encore, qu'on doit à l'autre, c'est de lui supposer un langage. C'est de ne pas le réduire à un presque rien, même s'il s'agit d'un bourreau qui passe son temps à tuer les gens. Il faut lui supposer une intériorité qui peut être même en contradiction avec ce qu'il fait. C'est ce que j'essaye d'explorer. Et là, j'ajouterais que plus je suis lu à l'étranger, plus c'est important pour moi. Non seulement c'est une intention littéraire, mais c'est aussi une attitude politique. Je déteste quand les écrivains du Sud offrent au centre occidental des personnages qui ne sont que des caricatures. C'est-à-dire, oui, Haïti, pays de la difficulté, pays de la pauvreté, mais aussi pays de la vie, pays de l'espérance humaine, pays des contradictions. Si quelqu'un sort de la lecture de mes livres, ça je dis souvent en disant, mais quelle merde qu'Haïti, alors là j'ai échoué. Que des gens disent, ah c'est difficile, quel drame humain. Et qu'on parle d'Haïti ou de la France ou du Japon ou du Kenya, peu importe le lieu. Ce qui est fondamental, c'est de dire que toute terre des humains est une terre de contradictions, avec ses malheurs historiques présents et avec aussi ses rêves d'humanité, son aspiration à être un lieu d'humanité.
Oui, mais concrètement, comment ça démarre tout ça ? Parce que dans un épisode précédent, vous nous avez parlé d'un de vos livres magnifiques, Yann Valou pour Charlie, en 2009. Qui avait eu le prix Wepler cette année-là. C'est un jeune avocat plein d'avenir qui appartient à la grande bourgeoisie haïtienne. Et d'un coup, un jeune garçon vient le voir et le ramène à ses origines modestes. Il vient le chercher.
Oui,
et vous avez dit que ça a démarré dans une soirée où vous avez vu un petit garçon.
Oui, tout à fait. Dans un milieu justement bourgeois, il y avait ce petit garçon qui visiblement n'était pas lui d'origine bourgeoise. Et en fait, j'ai appris par la suite qu'il était là parce que c'était l'anniversaire du fils de cette famille bourgeoise, et lui, quand il allait à l'école le matin, il voyait ce garçon sur sur son chemin et pour son anniversaire, ses parents lui ont demandé « qu'est-ce que tu veux comme cadeau ?» Et lui a dit « je veux qu'il vienne ». Et voilà, on commence quasiment un enfant des rues. Avec le prénom de Jetor, se retrouve dans un univers de Patrick, de Robert, plutôt clair de peau d'ailleurs par rapport au reste de la population haïtienne. Donc il y a quelque chose qui s'est mis en place, cette contradiction. Et puis comme j'ai fait des études de droit tout mon parcours jusqu'à la licence, j'avais des condisciples qui arrivaient de la province. C'était un bonheur pour moi, Port-au-Princien, parce qu'ils arrivaient avec d'autres mœurs, avec d'autres façons de parler, d'autres façons de se nourrir. Et quand je les retrouve 20 ans plus tard, avocats, on dirait qu'ils ont oublié cette province d'où ils venaient. Je les trouve plus ancrés dans, je dirais, ces pratiques d'imitation de ce qu'on croit être les mœurs françaises. Ce sont toujours des choses qui viennent de la réalité, qui se mettent en place et qui me permettent de construire les personnages. Donc, et encore avec aucune volonté d'appauvrissement de ces personnages, au contraire. Même en leur supposer plus d'humanité qu'ils ne montrent dans la vraie vie. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Mais c'est toujours des fragments de personnes réelles qui me permettent de construire les personnages de mes livres.
Et souvent, il y a cette thématique de la ruralité, de gens venus en ville à Port-au-Prince qui sont, pour une raison ou une autre, contraints d'y retourner.
Pas forcément de la ruralité, mais je dirais du déplacement. Oui, il y a quand même cette idée du déplacement, comment on habite un lieu dans lequel on n'est pas forcément né, un lieu qui ne présente pas forcément toutes les conditions minimales pour être habité, comment on se construit par rapport à un voisin qui vous déteste, comment on se construit dans une ville qui ne vous aime pas, comment on se construit dans un univers livré aux petits et aujourd'hui au grand banditisme. C'est toujours la question de la présence au monde. Qu'est-ce que je fais de ma présence au monde? Et pour moi, poser, pour rester, je dirais, matérialiste et réaliste, poser la question de la présence au monde, c'est forcément la poser par rapport au lieu où on se trouve. Encore une fois, les gens ne vivent pas dans le ciel ou dans un quelconque paradis, ils vivent dans des conditions objectives. Et ce qu'ils font d'eux-mêmes ne peut se concevoir que dans leur relation avec ces conditions objectives. Qu'est-ce qu'ils acceptent, qu'est-ce qu'ils rejettent, à quoi ils adhèrent, qu'est-ce qu'ils refusent. Il y a toujours cette problématique. Et le passage d'un lieu à un autre, c'est souvent le passage d'une réalité à une autre. C'est le passage d'une condition sociale à une autre condition sociale. Donc c'est ce que j'explore quand on arrive de Paris. On a 20 ans, on arrive de Paris pour se retrouver dans une province haïtienne qui donne sur la mer et où apparemment on a l'impression que la modernité n'a jamais pénétré. Comment on se pense par rapport au lieu d'où l'on vient et par rapport au lieu où on se trouve. Et je pense que poser la question du rapport à l'autre, c'est aussi poser la question du rapport au lieu. Donc oui, pour moi, c'est fondamental.
Il me semble, Lionel Trouillot, que vous atteignez l'universalité dans vos livres, c'est-à-dire que ça se passe toujours à Haïti, et en même temps, on est presque parfois dans des tragédies grecques, parce que c'est justement qu'est-ce qu'on fait de sa vie, est-ce qu'on doit accepter ou refuser telle ou telle situation, et donc on peut tous se reconnaître à travers ces personnages.
Alors, vous savez, Haïti, il y a des livres dans lesquels les lieux ne sont pas du tout précisés, donc les gens supposent, et ça ne me dérange pas du tout, parce que tous les lieux du monde sont des lieux d'expression des contradictions du monde. Lesquelles contradictions prennent des formes différentes, mais c'est toujours le même enjeu au final. Qu'est-ce que je fais de ma présence au monde par rapport à l'autre ? Par rapport à la pauvreté de l'autre, par rapport à la richesse de l'autre, par rapport à la violence, par rapport à la liberté, par rapport à la justice.
Et pourquoi vous avez choisi de construire presque tous vos livres avec différentes voix qui se succèdent ?
Oh, peut-être quelque part pour me désennuyer, pour ne pas être dans la petite voix de Lionel Trouillot qui se prendrait pour une voix que les gens doivent absolument écouter. J'aime vraiment l'idée d'un écrivain public qui serait capable d'écrire n'importe quelle histoire. Des gens arriveraient vers lui ou vers elle avec des histoires et lui diraient « Tiens, raconte-moi ça. Donne du contenu, donne de la vie à cela modestement. » C'est un peu ce que j'essaie de faire. Donc, quand cette polyphonie, elle est nécessaire, je pense qu'il faut mettre justement ces voix en présence. et pour se dire que, contrairement à ce qu'on peut penser dans certaines sociétés dominantes, dans certains espaces dominants, tout le monde mérite d'être écouté, et surtout ceux que d'habitude on n'écoute pas. Les pouvoirs politiques ne les écoutent pas, les systèmes dominants ne les écoutent pas. L'expression de voix des sans-voix utilisée par Césaire, elle me semble plus que jamais avoir du sens. Est-ce que je vais raconter sur la petite vie de Lionel Trouillot, un petit bourgeois pas riche, mais avec un capital culturel à sa naissance, à côté, il y a un petit Dieu tort, là, que personne ne voit et qui mérite d'être vu. À côté, il y a une jeune femme qui pourrait devenir écrivaine si elle en avait les moyens. Et c'est une façon d'aborder la question de l'injustice sociale. Il y a une distribution inégale, non seulement des biens matériels, mais aussi des biens symboliques et culturels. Et même, si vous voulez, la biographie, c'est un bien qui appartient à des groupes sociaux, à des classes sociales. Si on m'a suffisamment emmerdé quand j'étais gosse avec la biographie de Christophe Colomb et son rêve de conquête, mais qui a écrit la biographie de chaque Taïno qu'il a tué. Moi, j'aimerais bien écrire la biographie de tous les Taïnos, parce qu'ils ont les mêmes droits que Christophe Colomb ou que moi. Donc, au fait, c'est restituer les droits des vaincus, des victimes, des dominés. Et cette question, elle m'importe beaucoup. S'il y a une dimension un peu politique dans les livres que j'écris, je crois que c'est ça. Il faut au moins déjà tenter de mettre les voix à égalité.
On viendra dans l'émission prochaine à votre engagement politique, Lionel Trouillot. Pour rester sur les personnages, ce qui m'intéresse personnellement dans ces livres où il y a plusieurs voix qui se succèdent, c'est que souvent, vos livres, il y a l'idée de la transmission. C'est deux personnages, un personnage qui va raconter quelque chose à l'autre, où il va y avoir un moment d'échange dans Ne m'appelle pas capitaine, un livre qui était sorti en 2018. C'était une jeune journaliste bourgeoise qui allait essayer d'interroger un monsieur plus âgé, mais dans un tout autre contexte, un livre comme La belle amour humaine, c'était une jeune femme venue d'Occident qui se trouvait dans un taxi. Alors les deux, le chauffeur de taxi et cette jeune femme, allaient échanger. Comme ça, les monologues se succédaient. Donc là, l'idée de transmission, d'échange, elle est aussi au cœur. Alors dans des sujets complètement différents, mais elle est au cœur de chaque livre, il me semble.
Elle est fondamentale, parce que s'il faut mettre les voix à égalité, il faut, comme disait le grand poète haïtien René Philoctète, que l'on s'écoute. Philoctète, il disait « L'homme n'est jamais seul alors que je vous parle et que vous m'écoutez ». Et je dis que oui, c'est vrai, à condition de réciprocité. Il faut donc que je prenne le temps d'écouter l'autre dans ce qu'il, dans ce qu'elle a à dire, et que ce soit une relation de réciprocité. C'est la seule façon d'espérer que les humains que nous sommes puissent partager ce bien commun qu'est la vie sur Terre de manière plus ou moins égale. Et aujourd'hui, ça c'est pas typique à Haïti, c'est un peu partout dans le monde. Vous avez des voix de dominants et des voix de dominés qui sont quasiment des voix presque pas entendues, oubliées, écartées et rejetées. Et de plus en plus, même dans les sociétés qui se croient arriver à la fin de l'histoire au nom de cette chose improbable, parfois indéterminé, qui s'appelle la démocratie, on se rend compte qu'il y a de larges parties de la population dont on n'entend pas les voix. Et ces voix, justement, quand elles ne sont pas entendues, elles ont des manières, parfois, qu'on peut juger brutales ou sauvages, de se faire entendre. Moi, j'aime bien ce vers de Michaud, « Anton, Anton, vous m'entendez, je vous arracherai ce que vous m'avez refusé en grammes ». Et nous vivons dans des sociétés qui refusent énormément de choses à la majorité des gens qui les habitent. Donc, il est donc tout à fait normal que ces gens réclament leur droit à la parole. Leur droit, dans certaines sociétés, peut développer, comme la mienne, à l'eau courante et à l'électricité. Et dans des sociétés comme la société française, à d'autres droits sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Vous avez forcément, dans des sociétés qui produisent de l'inégalité, des discours revendicatifs. Et ces discours revendicatifs, il faut qu'on commence à les entendre, parce que autrement, ils vont venir frapper à nos portes autrement. Et ça, pour moi, c'est fondamental.
Oui, mais ça ne m'explique pas comment vous faites, Lionel Trouillot, un écrivain, pour vous mettre à la place de tous ces gens et vous glisser dans leur peau pour nous donner leur monologue.
Mais je pense que c'est ça le travail, quelque part, de l'écrivain. Enfin, je dis le travail de l'écrivain. Le travail de l'écrivain que j'essaie d'être, c'est justement de sortir un peu de moi. On n'y parvient jamais totalement, mais de sortir un peu de moi pour me mettre tant soit peu à la place de l'autre. Et c'est ce déplacement qui m'intéresse dans la littérature. C'est pour ça que j'en avais déjà parlé. Un livre comme Les raisins de la colère, c'est un livre qui m'a marqué. Je dis que c'est le livre qui m'a déniaisé. Parce que quelque part, il met en place pléthore de personnages et en leur donnant une individualité. Et c'est ça, moi, j'aime les écrivains capables de faire cela. Jacques-Stéphane Alexis, l'écrivain haïtien, quand on lit Les arbres musiciens, je pense que les sociologues auraient beaucoup à apprendre de ce livre. On y voit toutes les classes sociales. En même temps, c'est fortement individué. C'est ça, pour moi, c'est important. Il faut simplement se déplacer. Il faut s'oublier, d'une certaine manière, se laisser habiter par les personnages. Quand j'ai écrit Thérèse en 1000 morceaux, le nombre de personnes à m'avoir dit « Mais comment t'as fait pour être cette jeune femme capoise avec ses démêlés, avec l'aristocratie, avec sa sexualité étouffée ?» Ben, je pense que c'est un peu ça aussi, le travail que peut choisir l'écrivain. À un moment, il faut que je cesse d'être un peu le Lionel Trouillot, entité biographique, pour... J'utilise le mot instance, mais pas du tout avec un sens de pédantisme. Il faut devenir autre chose, autre chose que soi-même. Il faut être au service, voilà. Pour moi, un écrivain, c'est un artisan qui est au service d'un système. Chaque livre, je le considère comme un système. Et si le système demande de se déplacer pour devenir Thérèse, le temps d'écrire Thérèse, ben, il faut le faire.
Oui, je vois bien qu'il faut le faire et je vois bien que c'est le travail de l'écrivain. La question, Lionel Trouillot, c'est comment vous faites ? Concrètement, quand vous vous dites, ben voilà, je vais me mettre à la place d'une jeune femme, je vais parler, je vais me mettre à l'intérieur d'une jeune femme. Comment on travaille ça ? Pour avoir des voix différentes dans chaque livre, parce qu'il n'y a pas le même langage, il n'y a pas la même tonalité. Et c'est vrai, on viendra au personnage de femme, mais c'est vrai que vous êtes à l'intérieur.
Ah ben, je pense qu'il faut y penser longtemps. Moi, je le dis souvent, j'aime pas les écrivains naïfs, c'est-à-dire qui savent pas où ils vont, où ils veulent aller. Évidemment, je sais que ça fonctionne. Il y a de très grands écrivains qui se lancent dans une aventure sans savoir où elle va les conduire. Et ce genre d'aventure conduit parfois à des chefs-d'œuvre. Moi, c'est pas du tout mon système pour travailler. Il faut que le livre soit fini dans ma tête pour que je commence à l'écrire, que le geste d'écrire advienne. Il faut donc que le livre soit là. Donc, je mets beaucoup de temps. Je mets beaucoup plus de temps à construire. Et je prends jamais de notes. À construire les personnages dans ma tête qu'à faire le travail de rédaction à proprement parler. Et c'est quand je la vois que quand Thérèse devient un corps, quand Thérèse devient une voix, que je peux écrire le livre. Mais ce travail-là, je vous le décris, tout ce que je peux vous en dire, c'est le peu que j'en sais finalement, parce que ça se passe à l'intérieur de nous sans qu'on ait un contrôle absolu sur le processus. Il y a un moment où il me semble que, voilà, le personnage, là, il est prêt. Et là, j'ose l'écrire. J'écris avec très peu de ratures. Donc, il faut vraiment que le personnage soit installé quelque part et que j'ai les phrases de départ de son langage. Le plus difficile, c'est de trouver la phrase de départ qui va permettre d'installer la voix. Et quand cette phrase de départ est trouvée, il est beaucoup plus facile d'être dans une sorte de continuité. Quelle est la première phrase dite par Thérèse, parce que c'est là qu'on va installer sa vraisemblance, sa crédibilité aux yeux de soi-même et aux yeux des lecteurs et des lectrices. Mais évidemment, il y a toute une part du processus sur laquelle je n'ai pas contrôle. Est-ce que je vais boire un coup ou est-ce que je vais pas boire pendant 3 jours? Est-ce que je vais taper dans un sac ou comment est-ce que toute cette mise en place se fait dans mon petit cerveau, j'en sais pas plus. Mais je sais qu'il faut vraiment que le personnage soit installé pour que je commence à écrire. J'ai jamais commencé un livre sans que les personnages qu'on peut appeler les personnages principaux ne soient clairement installés dans ma tête.
Et le fait alors de parler à la place d'une femme, de se mettre à l'intérieur du cerveau d'une femme, c'est Thérèse en mille morceaux, mais il y a eu d'autres livres où vous avez fait ça, dans La belle amour humaine par exemple, ou Ne m'appelle pas capitaine, on en a parlé. Il y a quelque chose de politique là-dedans. C'est pas si courant finalement, un auteur garçon qui écrit en disant je à la place d'une femme.
Oh, écoutez, moi je reviens à l'idée que pour moi l'écrivain véritable, c'est l'écrivain qui est capable au moins de tenter ce type de déplacement. Saramago se met à la place de Caïn, qui parle à Dieu, qui lui dit, camarade, tu sais, l'histoire que t'as racontée aux autres, moi j'étais là au début, je sais que ça s'est pas passé comme ça. Si on n'est pas capable de ce déplacement, ou au moins de tenter ce déplacement sans prétendre avoir réussi, à mon avis, il y a quelque chose qui manque. Et je crois que, quelque part, tout écrivain fait ça. On parle ici d'une femme, ça pourrait être d'un vieil homme, ça pourrait être... à la place d'un mythe, à la place d'un poisson, à la place d'un objet auquel on donnerait une conscience humaine. Je pense que le travail, quelque part, de l'écrivain, c'est de faire ce type de déplacement. Ça vous donne des livres comme La vie devant soi, ça vous donne... moi, les livres qui me parlent beaucoup, L'évangile selon Jésus-Christ de Saramago, là, justement, il y a un moment où il faut... ça suffit, t'es déjà toi-même, donc parle-nous d'autre chose. Essaie de faire advenir autre chose, et ça implique forcément un déplacement. Et j'ai jamais trop compris pourquoi on se pose souvent la question, comment tu fais pour devenir cette femme qui parle dans le livre. Ben c'est un peu faire ça ton travail d'écrivain. Je pense qu'une partie du travail d'écrivain, c'est devenir quelqu'un d'autre. Si tu n'es que toi, ça va. Soit tu vas à confesse, soit tu vas chez le psy, et puis ça suffit.
Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant quand même, Lionel Trouillot, c'est que vous nous avez dit être la voix des sans-voix, vous montrez la réalité haïtienne à travers ces personnages que vous mettez en scène, mais vous travaillez toujours du côté de l'intime, ce qui fait que c'est pas seulement ces personnages, oui, ils sont pas caricaturaux, et puis c'est pas seulement des porte-parole d'une problématique sociale, il y a aussi... l'intime, il y a aussi le fait d'être amoureux ou pas, il y a les origines, il y a les parents, il y a ce qu'ils ont vécu dans l'enfance, il y a tout ça en eux.
Oui, c'est justement, faut supposer à l'autre une individualité, une intériorité qui essaie d'être, qui est face à des empêchements, qui est face à parfois à des impasses, mais supposer donc une volonté de dire je. Et je pense que souvent que quand on parle des, entre guillemets, des dominés ou des pauvres dans une certaine littérature, on a justement tendance à faire comme s'il s'agit d'un groupe. Quand on fait de la littérature, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle les paysans haïtiens. Ça se décline sur le mode individuel. Et c'est ça qu'il faut chercher, parce que c'est par là qu'on peut s'approcher d'une vérité.
Et l'amitié, alors Lionel Trouillot, ça c'est une dimension qui m'intéresse aussi dans vos livres. Vous décrivez souvent des groupes d'amis dans...
Oui, dans Ne m'appelle pas capitaine, il y a bien un groupe d'amis dans...
Il y a un groupe d'amis dans Ne m'appelle pas capitaine, mais dans L'amour avant que j'oublie, il y a aussi un homme qui se souvient quand il était jeune des trois amis. Et dans Kanjaou, c'est l'histoire de cinq jeunes gens dans Haïti... Et aujourd'hui, d'où vient ce club des cinq que vous avez recréé pour Kanjaou? Oui, voilà, cette idée du groupe d'amis jeunes qui est fondateur, au fond, des personnalités.
Parce que c'est toujours dans cette confrontation avec les autres que se pose la question de l'individualité dans une relation positive ou dans une relation négative. Le groupe est, hélas, historiquement souvent le lieu d'écrasement de l'individualité, mais on peut le penser aussi dans ce que j'appellerais une hypothèse communiste, comme le lieu d'avènement de l'individualité. Qu'est-ce qu'advenir à soi-même si ce n'est pas fait dans une relation positive avec le groupe? Donc quand ces petits groupes justement d'amis ou de personnes qui ont grandi dans un même quartier sans avoir vraiment des relations d'amitié, ça me permet de créer ces lieux de confrontation. Quand ils sont cinq amis, tous étudiants, ils disent vouloir faire la révolution, peut-être qu'il y en a deux ou trois qui sont pas sincères, peut-être qu'il y en a deux ou trois qui sont sincères, et à l'intérieur de ce groupe, l'amitié ou la relation homme-femme, toutes ces choses. Donc quand l'installation de ces groupes-là ça me permet de poser cette question qui est pour moi fondamentale. Il n'y a de jeu que de la relation avec l'autre. Les petits groupes, donc, justement, permettent d'exposer ces contradictions. Le groupe, c'est deux choses. Soit c'est le lieu, la puissance d'écrasement, soit c'est l'espace de libération dans la solidarité et la fraternité. Donc, quand les groupes dans mes livres, c'est toujours cela. Évidemment, il y a des livres où c'est la relation positive qui est plus explorée. Il y en a d'autres où c'est la relation négative, mais c'est toujours cette problématique-là, le groupe comme espace de construction libératrice, le groupe comme espace d'étouffement qui ne permet pas d'arriver à soi-même.
Oui, moi je le voyais peut-être comme une espèce de passage à l'âge adulte, quand on quitte sa famille et qu'on on construit un groupe d'amis. Il me semblait voir ça à travers ces groupes d'amis que vous mettez en scène.
Dans certains livres, mais par exemple dans L'amour avant que j'oublisse, c'est quasiment des vieux. Ils ont passé cet âge depuis longtemps. Et là encore, si on va vers l'intrigue ou la fable, dans le livre, dépendamment de l'histoire qui est racontée, ces groupes, ils n'ont pas forcément le même âge, mais en effet, dans certains cas, dans certains livres, vous avez ce passage à l'âge adulte, comme dans Ne m'appelle pas capitaine. Dans d'autres livres, vous avez des gens plus ou moins établis déjà dans leur vie. Ce sont des adultes, on pourrait dire d'âge moyen, parfois même des vieux.
Et les Occidentaux, ils sont parfois dans vos livres.
Et là encore, c'est le plus difficile, c'est de ne pas caricaturer quelqu'un qui vous caricature. Et là, j'ai fait beaucoup d'efforts. Et là, on peut voir tout de suite comment la lecture est elle-même fondée par l'histoire et les lieux. Souvent, les Haïtiens m'ont dit « Mais on te trouve tellement généreux avec les Blancs. » Mais cette jeune femme un peu paumée qui est présente dans Kandjaou, bon, elle arrive à Port-au-Prince en disant des choses abominables, comment j'épuise ma relation avec ce pays dans mon travail. Elle est ratée. Chez elle, elle arrive là, elle trouve des millions de pauvres et elle dit « Voilà, je vais être utile, je vais être Mère Teresa le matin et le soir, aller me saouler dans les bars et faire l'amour avec des garçons noirs. » Mais il faut quand même, derrière cette imbécilité profonde, il faut quand même lui supposer une humanité. Comme il faut supposer une humanité à ce garçon noir qui fait les bars où vont les blanches pour se dire « Ah, il y en a peut-être une qui va me trouver un visa pour que je puisse partir. » Donc, il ne faut jamais réduire les gens au pire de leur pratique. Et donc, j'essaie de le faire, je ne sais pas si j'y parviens, j'essaie de le faire avec des personnages venant de l'Occident chrétien blanc capitaliste, comme j'essaie de le faire avec les enfants des rues de Port-au-Prince. Pour moi, c'est le même traitement. C'est le même traitement. Évidemment, de point de vue politique, je me sens plus proche de l'enfant des rues de Port-au-Prince ou de l'ouvrier exploité. Mais quand je construis un personnage, que la personne vienne de Paris ou de Montréal, de Cité-Soleil ou de Port-de-Paix, il faut que j'essaie de lui supposer une humanité.
Merci, Lionel Trouillot. Demain, on entrera un peu plus dans votre engagement politique et dans ce que vous faites en tant que citoyen et en tant qu'auteur, et les différentes actions que vous menez à Haïti au service de la littérature et des auteurs. C'était À Voix Nue avec Lionel Trouillot, réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Stéphane Foulon, chargé de programme Daphné Abgral, une série de Sylvie Tanette, disponible sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.